Nous allons lire quelques textes qui vont nous parler du moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Et entrer dans le royaume des cieux, c'est entrer dans la vie qui ne se perd plus, dans la vie éternelle, avec un corps qui ne peut plus mourir, avec une âme rendue parfaite. Il faut tout cela. Le Seigneur s'en charge et nous allons voir ce qu'il faut, de notre part, lui apporter. Lisons dans Matthieu 6, la fin du verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je m'arrête là. Vous connaissez cette prière qu'on appelle la prière dominicale ou quelquefois simplement le Notre Père et que tant d'hommes, tant de générations ont récité. Il y en a qui le récitent encore, bien que ce ne soit pas une récitation. Mais c'est un modèle de prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous lirons toujours dans le même évangile, au chapitre suivant, chapitre 7, verset 21. Ça a déjà été lu ce matin au culte. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez bien entendu, n'est-ce pas, ce que dit le Seigneur Jésus. Beaucoup de gens viendront et me diront, au moment où les comptes devront être réglés, au moment où le Seigneur reviendra pour le règne. Ah, Seigneur, 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 nous sommes des tiens, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous t'appartenons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, même qui le disent maintenant, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui y entrera? Eh bien, celui-là seul, celui-là seulement, mais qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà donc quelque chose de net. Pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Christ, il faut faire la volonté de Dieu. Et puis nous allons lire maintenant une parabole du Seigneur dans le même évangile de Matthieu 21, chapitre 21, verset 28. Que vous en semble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, royaume des cieux, il faudra donc avoir fait, je dis bien avoir fait, avant, préalablement, la volonté de Dieu le Père. Seuls ceux-là entreront dans le royaume et iront à la vie éternelle. Et nous savons, instruits que nous sommes par l'Évangile qui est clair, nous savons que Dieu a préparé le chemin qui permet à l'homme de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et la volonté première de Dieu, Dieu a une volonté, n'est-ce pas? Eh bien, la volonté première de Dieu, la voici. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui-là, je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils, ou contemple le Fils plutôt, n'est-ce pas, non pas le voir avec les yeux de notre tête, mais le contempler, s'approcher de lui, lui attacher notre foi, eh bien, quiconque fait cela et croit en lui, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la volonté première de Dieu, la volonté essentielle pour les hommes. Une volonté à considérer en premier, en tout premier, parce que si on ne considère pas celle-là, on ne pourra pas considérer les autres, ni faire les autres. Et je veux encore vous rappeler, avant de méditer sur la parabole que nous avons lue, je voudrais vous rappeler ceci, c'est que c'est en faisant la volonté de Dieu, la volonté de son Père, que Jésus a vaincu le péché dans l'homme, et qu'il a vaincu la mort, ouvrant ainsi un affranchissement à l'homme pour que celui-ci puisse faire lui aussi la volonté du Père et entrer dans le royaume des cieux. Enfin, Jésus a pris une chair semblable à celle du péché, cela nous est dit, et cela nous est dit pour les besoins de notre instruction, pour que nous comprenions. Il a pris une chair semblable à celle du péché, sans commettre lui le péché, bien sûr, n'est-ce pas, puisqu'il vient précisément le détruire, il vient sauver les hommes pécheurs. Eh bien, il a pris une chair semblable, et dans cette chair, qui était réfractaire, qui est toujours, chez tout homme, toute femme, qui, qu'il soit ou qu'elle soit, eh bien, dans une humanité semblable à la nôtre, réfractaire à l'obéissance à Dieu, eh bien, Jésus a réintroduit l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux. Il a réintroduit, il a fait la volonté du Père, et c'est ainsi qu'il a refoulé le péché. N'oublions pas ces choses, elles sont importantes. C'est en quoi la révélation de Dieu nous présente l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Eh bien, nous en arrivons à cette parabole appelée la parabole des deux fils. Il y a en effet, dans cette petite histoire, la parabole, c'est une histoire qui, on l'appelait autrefois une similitude, une histoire qui va porter une vérité qu'il faut connaître, et elle va rendre cette vérité accessible à tout le monde. Un homme qui a deux fils et qui dit à ses fils d'aller travailler dans sa vie. Je ne sais pas qui pourrait dire, moi je ne comprends pas. Un homme, c'était un père. Un homme, un père. Bien sûr, dans cet homme, cette père, la transparence de la parabole est telle que nous voyons bien, n'est-ce pas, qu'il s'agit de Dieu, du Père, le Père. Ah oui, Dieu aime à être retrouvé, je dis bien retrouvé, car dans notre indifférence, dans notre frénésie à parcourir la vie qui s'ouvre devant nous depuis notre naissance, là, au cours de notre jeunesse, nous grandissons, nous bondissons dans la vie, hein, nous voulons jouer du coude à coude, nous voulons arriver, tout ça, dans cette frénésie à traverser ainsi la vie qui s'offre à nous, nous pensons à nous, nous pensons aux choses de la terre, nous ne pensons pas à Dieu, on ne pense pas à Dieu, qui est un père, qui aime à être retrouvé comme un père, comme créateur, mais mieux encore que comme créateur, comme celui qui aime, un père est celui qui aime, surtout un père parfait, un père trois fois saint, il aime ses enfants, il aime ses créatures, et il leur prépare un héritage. Il leur prépare quelque chose d'excellent, de magnifique. Nous sommes à la recherche de quoi? De toutes sortes de choses qui vont périr, de toutes sortes de choses qui peut-être vont nous décevoir, vont nous manquer. Combien de gens ont manqué justement ce qu'ils poursuivaient avec avidité? Un homme qui est un père et qui aime et qui veut donner à ses fils un héritage. Et alors, nous voyons la parabole nous présenter ces deux fils qui, successivement, paraissent, comparaissent devant leur père, et à chacun d'eux, le père dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui, maintenant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et les réponses sont opposées l'une à l'autre. L'une, le premier fils, c'est le non. Non, je ne veux pas. Le non suivi pourtant d'une acceptation de fait, le non oui. Quant à l'autre fils, c'est le oui suivi d'un non. Et ces deux attitudes opposées correspondent à deux destinées également opposées. Deux destinées opposées. L'une étant l'entrée dans le royaume éternel, l'autre étant la perdition. Entrée dans le royaume éternel ou perdition. Deux destinées. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ces deux-là, chers amis. Ce n'est pas la peine de chercher d'autres destinées que celles-là. Deux. Deux destinées, deux fils, deux catégories d'hommes au regard de Dieu sur la terre. Ceux qui écouteront et feront. Ceux qui peut-être diront oui, mais ne feront rien. C'est tout. Ce n'est pas la peine d'envisager d'autres catégories. Il n'y a que celle-là. Il n'y a que deux attitudes possibles et deux destinées correspondantes. Va aujourd'hui travailler dans ma vigne. La vigne, dans la Bible, d'une façon générale, représente le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est formé, le peuple que Dieu s'est acquis. C'était autrefois le peuple d'Israël, et c'est aujourd'hui ce peuple acquis qu'on appelle aussi Israël, l'Israël de Dieu, l'Église. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 5, il y a un cantique qui est le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, et la vigne, c'est le peuple. Le peuple, Dieu avait planté une vigne, et cette vigne représente le peuple. Et Dieu avait pour sa vigne un grand amour. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Est-ce que c'est un ordre que le Père donne à ses fils? Non, pas du tout. C'est une confiance qu'il leur fait. C'est la confiance d'un père qui partage son œuvre avec ses fils. Il leur accorde la liberté d'y aller ou de ne pas y aller. La liberté. Il leur laisse aussi la responsabilité. Bien sûr, des conséquences de leur choix. Liberté et responsabilité. Et la vigne, elle, ce n'est pas un lieu de travaux forcés. Ce n'est pas un lieu où l'on va subir un esclavage. La vigne, ce sera l'héritage des fils. L'héritage, mes amis. Le peuple que Dieu s'est acquis, sera précisément le peuple du royaume de Dieu. Ce sera ce peuple qui règnera sur la terre. Et Jésus a dit dans les Béatitudes, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Ce ne sont pas les violents comme maintenant, les violents qui cherchent à hériter, à s'emparer de la terre, s'emparer des territoires. Ce sont les doux qui hériteront la terre. Dans la parabole, l'autre parabole, celle qu'on connaît sous le nom de la parabole du fils prodigue, alors le père dit à ses fils, « Ce qui est à moi est à toi », dit-il à son fils, « Ce qui est à moi est à toi ». Vous voyez, n'est-ce pas, que ce n'est pas un esclavage auquel le père envoie ses fils, mais au contraire, c'est une confiance qu'il leur fait dans leur propre intérêt, pour leur bien à eux. Est-ce que nous avons compris que Dieu, avec sa parole, avec son évangile, avec le Christ, son Fils qu'il a envoyé sur la terre, avec ses invitations à venir, est-ce que nous avons compris que ce n'est pas une contrainte comme on l'imagine maintenant, comme on veut faussement le faire entendre, mais que c'est au contraire la manifestation de l'amour de Dieu. Quand Dieu nous appelle par cette parole, je pourrais, chers amis, vous montrer que le décalogue tout entier, le décalogue qu'on appelle les 10 commandements, les 10 lois, je pourrais vous montrer que ce n'est pas quelque chose de dur, de rigide, d'impératif qui vient peser comme un joug sur le front des hommes. Mais je pourrais vous montrer que ces 10 lois, c'est aussi une confiance que Dieu fait à l'homme. C'est une libération. Lorsque le Seigneur a donné à Moïse le décalogue sur le Sinaï, écrit de sa main sur des tables de pierre, il avait dit à Moïse, voici les lois que le peuple observera, ce peuple qui est délivré de la maison d'esclavage. C'est un peuple délivré. Et chers amis, c'est à des fils libres, à des fils délivrés, à des hommes que Dieu veut délivrer par Jésus-Christ de tout joug, de toute captivité. C'est à des hommes qu'il dit, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. C'est ton bonheur, c'est ton bien, c'est ta destinée heureuse. Il faut comprendre les choses de cette manière, mes amis. Et il ne faut pas se laisser guider par le sens habituellement et faussement prêté à ces choses. Ainsi, le premier fils dit non, d'abord, je ne veux pas. C'est un refus catégorique qu'il oppose à son père. C'est, on peut dire, une attitude de révolte contre la volonté du père. Je ne veux pas. Évidemment, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont ainsi. On leur parle de l'évangile. Oh, non, c'est pas pour moi, je n'en veux pas. Quelle que soit la forme de la réponse, c'est toujours la même attitude de ceux-là. Non, parlez-moi de ce que vous voudrez, mais l'évangile, non, j'en veux pas. Pourtant, c'est bien là la volonté du Père, la volonté de Dieu. Chers amis, je n'en veux pas. Ce fils ignore quelque chose, pourtant d'essentiel, il ignore que le Père est. Il ignore que travailler dans la vigne, et nous reprenons le sens que cela prend dans les réalités divines, c'est occuper la place de fils. C'est entrer dans le peuple, la vigne c'est le peuple, c'est entrer dans le peuple de Dieu. C'est s'y intégrer pour travailler au bonheur de ce peuple, et par conséquent à son propre bonheur. C'est contribuer à l'amour, à la miséricorde. L'amour de Dieu s'exerce sur un peuple mis à part, un peuple délivré. Jésus a commencé à Nazareth à parler de cela. Il est venu délivrer les captifs, délivrer les hommes, les rendre à la liberté. C'est un peuple délivré. Chers amis, c'est ça qu'il faut comprendre de l'évangile d'abord. L'évangile nous donne la vraie liberté. Ce fils, alors, pense-t-il à la miséricorde? Il y a, vous savez, beaucoup de ces gens qui s'opposent, qui ne veulent pas de l'évangile, pour des raisons idéologiques, philosophiques, des raisons diverses. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas que l'évangile vienne déranger quoi que ce soit, ce qu'ils ont imaginé qu'était leur vie, que pouvait être leur petit bonheur sur la terre. Ils ne veulent pas. Mais pense-t-il que l'on ne peut pas vivre en société sans la miséricorde, que la miséricorde est indispensable à toutes les sociétés humaines? Pense-t-il même qu'il y a une forme de miséricorde qui s'exerce dans les populations animales? La miséricorde est indispensable, et ce fils, comment va-t-il exercer la miséricorde s'il ne veut pas de celui-là seul qui peut l'inspirer à son cœur? Ah, alors Que va-t-on faire? On va se replier sur soi-même, se replier sur son égoïsme, chercher soi-même à satisfaire ses aspirations. On va se considérer comme le centre de l'univers et regarder les autres comme étant là pour soi-même. Voilà à quoi on va arriver si l'on ne veut pas entendre l'appel de Dieu, l'appel du Père, l'invitation du Père d'aller dans sa vigne. Le non qu'oppose ce premier fils, le refus qu'il oppose, monte d'un cœur qui est ignorant. Nous le voyons, un cœur ignorant, un cœur qui est révolté en conséquence de la chute. Mais il y a quelque chose dans cette parabole qui alors nous montre une transformation soudaine de la pensée, de l'attitude de ce premier fils. Il nous est dit qu'il se repentit, ensuite il se repentit et il alla. Il alla dans la vigne comme il y avait été invité. Voici donc que ce premier fils change d'avis. Il change d'avis. Et changeant d'avis, il change d'attitude. Il change de pensée. Quelque chose s'est produit en lui. Il est certain que ça n'a pas été sans un bouleversement dans son cœur, dans ses pensées. Il s'est passé quelque chose. Il y a sans doute eu un combat en lui. Je ne veux pas. Il voulait peut-être se maintenir à ce refus. Et puis, tout de même, dans son cœur, d'autres pensées sont venues, se sont présentées à lui. Mais si tu y allais pourtant, si tu y allais, ton père te le demande. Il ne te l'a pas demandé ton mal, pour ton malheur. Il te le demande selon son amour. Il se repentit. Ah, chers amis, tout à l'heure, nous avons parlé de cœur repentant. L'Écriture nous parle de repentance. Repentance est un état, en effet, par lequel Dieu désire que tout homme passe. Et, chers amis, je puis vous dire une chose, c'est pas la peine, n'est-ce pas, de ne pas donner toute clarté à la vérité, au message de l'Évangile, il est impossible d'être à Dieu sans passer par cet état de la repentance. La repentance qui n'est pas une pénitence. Il y a certaines théologies, n'est-ce pas, et qui ont travesti l'idée de repentance en faisant une pénitence. La pénitence, il y en a une pour le péché, c'est Jésus mourant sur la croix. C'est le Fils de Dieu, là, pendu au bois, comme il est dit, pour expier le péché. La voilà, la pénitence. Mais le pécheur qui est sollicité par Dieu n'a pas de pénitence à subir. Dieu lui demande un état de repentance. Et cette repentance va se présenter à son cœur. Le Saint-Esprit, bien sûr, aura travaillé son cœur. Il va se présenter à son cœur. Ce sera le triomphe de l'Esprit sur l'homme naturel, sur la chair. Triomphe de l'Esprit sur la chair. Cette repentance qui nous est demandée. Repentez-vous, prêchait Jésus, et même Jean-Baptiste déjà avant lui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Passez par cet état merveilleux, où soudain, vous allez voir qu'en effet, vous n'avez jamais fait la volonté de Dieu. Qu'en effet, vous vous êtes toujours insurgé contre ce qui était la volonté de Dieu. Vous avez marché à votre gré. Selon les directions montées de l'homme, d'où venaient-elles ces directions? Oh, c'était l'esprit de la chute à travers l'homme naturel, à travers la chair, et qui venait vous diriger vers tout ce qui était opposé à la volonté du Père. Et voici que l'esprit montre cela, et le cœur repentant voit son péché. Et quand il aperçoit son péché, il veut sortir de cela. Il veut en être délivré. Alors, il porte les regards, c'est-à-dire la foi de son cœur, vers quelqu'un qui nous est donné comme un libérateur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le triomphe de l'esprit sur la chair. La parole du Père, va, mon enfant, aujourd'hui, travailler dans ma vie. La parole du Père travaille ce cœur. Ah, elle affouille ce cœur, et voici que c'est elle qui amène dans ce cœur
ce moment d'heureuse repentance, car c'est un heureux moment. C'est un heureux moment. Et ce fils qui se repentit, se convertit par conséquent à faire la volonté du Père. Il va faire la volonté du Père. Il va à la vigne, son cœur, sa foi, l'a poussé à cela, l'a remis sur la voie, je prends une expression qui figure dans notre texte, la voie de la justice. Celle que Jean venait déjà annoncer sur la terre, la voie de la justice. Alors, il est remis sur cette voie de la justice, et cette voie de la justice est la voie de la vie véritable. C'est la voie où l'homme trouve la vie. La voie de la justice, c'est la voie de la vie. Il est remis donc sur cette voie. Il a trouvé la vigne, il a trouvé le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Il en sera. Il sera du peuple. Il sera de ce peuple acquis. Il sera du royaume de Dieu. Voilà qui est merveilleux, chers amis. Vous voyez comme Dieu nous présente l'accès à la vie éternelle, l'accès au royaume de Dieu. Mais voyons le second fils. Et le second fils s'est dit, je veux bien, Père. Et j'imagine qu'il a dit cela avec un ton assez doucereux, un ton de soumission. Je veux bien, Père. Oh, je veux bien, je ne vais pas refuser. Il sait qu'obéir au Père, c'est la bonne règle, il le sait. Il ne conteste pas celui-là. Mais voici qu'il se trahit. Il se trahit, il trahit son bonheur, il se trahit, il a vu dans l'invitation du Père un ordre, il a vu une contrainte, et librement, puisqu'il est libre, puisque tout homme est libre, Dieu laisse à tout homme la liberté, il ne peut pas y avoir d'amour hors de la liberté, soyez tranquille, pas de contrainte, Dieu n'a jamais exercé de contrainte et n'en exerce pas. Personne ne vous force. Et même, il faut le dire souvent, n'est-ce pas, nous qui annonçons l'évangile de Jésus-Christ en vue du salut de chacun, de ceux qui croient, eh bien, nous devons le rappeler, Jésus a dit même à ses apôtres, et vous, les douze, vous ne voulez pas aussi vous en aller comme les autres? Si vous voulez partir, partez. Je ne vous retiens pas. Il faut que ce soit par le cœur. Il faut que ce soit par une acceptation de la foi des cœurs que l'on reste et que l'on vienne à Dieu. Mais ce fils a vu une contrainte, il voyait sa position de fils comme celle d'un esclave. Ah, c'est en ce moment que justement le diable a troublé tous les cœurs de l'homme avec les théories modernes. On ne veut plus d'autorité, on ne veut plus de morale, bien entendu, on ne veut plus de ce qui est ancien. Alors, l'évangile, la parole de Dieu, oh, c'est encore de la morale, cela, on n'en veut pas, on considère la parole de Dieu comme un ordre, comme une contrainte, comme quelque chose qui va être lourd à porter. C'est faux, cela c'est une représentation de l'ennemi de nos âmes, ce n'est pas du tout cela, l'évangile, pas du tout. Il voit donc sa position de fils comme celle d'un esclave, il oublie tout de l'intention. Tout des sentiments du Père, tout de son amour, tout du bien que le Père veut lui faire. Il oublie tout, il voit un ordre, il ne veut pas obéir, il ne veut pas soumettre. Il a dit oui parce qu'il savait que c'était ce qu'il fallait faire. Ah, on lui avait appris sans doute à dire oui, alors il dit oui, mais il ne veut pas, il se révolte celui-là et il reste dans sa révolte. C'est quelque chose de très, très grave. Et nous pourrions peut-être dire ceci de ce deuxième fils en nous reportant à Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Il s'agit de la loi de Dieu. Est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Il s'est passé ceci exactement pour ce second fils. Je veux bien, père, mais il a considéré l'invitation du père comme un ordre, comme une contrainte. Ça a été pour lui un commandement dur et rigide, et ce commandement utilisant le péché qui est en l'homme, le péché qui est dans tout homme, comme nous l'avons lu. Alors utilisant ce péché, son cœur lui a dit, tu vois, eh bien tu pourrais ne pas faire, tu pourrais te soustraire à cet ordre. Pourquoi vas-tu obéir? Pourquoi vas-tu être un esclave? Pourquoi ne vas-tu être sous le joug d'un père? Mais tu es libre. Ah oui, c'est ce qu'on dit à notre jeunesse partout. Tu es libre. Do it. Il y a un petit livre qu'on a répandu dans la jeunesse sous ce titre. Do it. Fais-le. Fais tout ce que tu veux. Fais ce que tu as dans le cœur. N'obéis pas à tes parents. Voilà ce qu'on a dit. N'obéis pas à Dieu, bien sûr. Et c'est ça qui est venu dans le cœur de ce second fils. Lui qui avait dit « je veux bien », il n'y alla pas. Mais, chers amis, attention à une chose. Attention, c'est la chose grave. C'est une attitude terrible, celle-là. J'aime mieux l'attitude du premier fils, et c'est bien celle-là que Jésus nous donne à préférer. Mais il y a quelque chose de terrible. Écoutez bien. Voilà un fils qui, comme tout homme, aura besoin d'une société, il aura besoin d'amis, il aura besoin de quelqu'un pour l'aimer, il aura besoin de frères. S'il était tout seul sur la terre, il mourrait d'ennui, de peur. Il a besoin de frères. Il est à la recherche, et encore maintenant, nous voyons bien que beaucoup de gens sont à la recherche d'amis, de frères, d'une société, d'un groupe. Mes chers amis, attention à ceci. Quand on n'a pas découvert un père en Dieu, on ne peut pas avoir des frères. Pour avoir des frères, il faut avoir un père. Et il n'y a qu'un père. Vous me direz, mais j'en ai eu un père, je suis né de père et mère, et j'ai eu mon père, j'ai mon père. Oui, mais celui-là, il va quitter, comme tout le monde, il va quitter cette terre. Mais celui-là, il ne peut pas te rester constamment ton soutien. Mais l'Écriture te dit, toi, homme, tu as un père. Et même, elle nous dit, n'appelez personne votre père. Car vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux, le Père éternel. N'appelez personne Père. C'est sans doute dans cet état de désobéissance où s'est vautré, hélas, un christianisme déchu, que l'on a appelé une foule d'hommes mon Père, pour désobéir, pour provoquer Dieu. Nous avons un Père. Et si nous avons un Père en Dieu, nous avons des frères. Et ceux qui sont dans l'Église, qui ont fait cette expérience, ils savent qu'ils ont une famille. Ils ne sont pas seuls. Ils ont des frères, des sœurs. Ils ont peut-être des frères et des sœurs aussi selon la chair. Ils ont une famille selon la chair. Je ne veux pas la décrier, chers amis. Ce n'est pas le moment d'en parler. Mais nous pouvons dire ceci. C'est que souvent cette famille déçoit. Elle déçoit lourdement. Mais nous avons une famille spirituelle, parce que nous avons un Père. Découvrons un Père en notre Dieu, avec Jésus-Christ qui nous le fera découvrir, et nous aurons des frères et des sœurs. Et ce fils, ce second fils, il y a quelque chose de plus dans son attitude, dans son refus. Parce que ce second fils qui a dit « Je veux bien, Père », et qui n'est pas allé à la vigne, il croit, il est persuadé qu'il a fait la volonté du Père. Il est persuadé qu'il a fait la volonté du Père parce qu'il a dit « Je veux bien. Je veux bien, Seigneur. » Se contentant d'une parole sans réalité, se contentant d'une attitude devant le Père, c'est tout, une attitude, une parole. Il sera l'exemple de tout homme qui se contente d'une foi de principe, une foi de principe, une foi d'idée, mais combien, chers amis, dans le christianisme, qu'il s'appelle d'un nom, qu'il s'appelle de l'autre, disons dans ce christianisme qui nous est venu à travers les siècles, heureusement que ce livre, lui, nous est venu sans que la main de l'homme ait pu y apporter d'altération et de falsification, n'est-ce pas? Mais le christianisme, lui, de tradition, nous vient avec d'énormes déformations, et c'est ce que nous voyons. Les gens adoptent des attitudes, accomplissent certains actes religieux, des rites, se conforment, par tradition, oui. Et j'ai quelquefois demandé à des protestants, à des catholiques, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Oh oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, nous faisons la volonté de Dieu, nous le faisons, nous le faisons. Chers amis, pendant des siècles, quantité de bouches, peut-être quantité d'hommes et de femmes agenouillés auront récité « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ils auront récité ça, quelquefois, plusieurs fois par jour. Et ils n'auront jamais fait la volonté de Dieu. Ils ne se seront jamais souciés de faire la volonté de Dieu. Chers amis, si l'on reste attaché à ce qu'on croit être la religion, si l'on reste attaché à ce qu'on imagine pouvoir satisfaire Dieu sans avoir pris connaissance du message, sans s'être laissé instruire par l'Évangile, eh bien on en est là, on s'imagine avoir fait la volonté de Dieu. Parce qu'on a dit « je veux bien », parce qu'on a dit « moi, je refuse pas ». Combien de gens m'ont dit « mais je crois qu'il y a un Dieu », mais oui. Et ils m'ont dit « mais je crois que Jésus-Christ est son Fils », mais oui, il est venu sur la terre, mais oui, je crois tout ça. Et que font-ils? Ils vivent à leur gré. Ils ne font rien de la parole de Dieu. Il faut croire vraiment au Seigneur Jésus. Il faut accepter sa parole. Il faut se repentir comme nous l'avons vu. Ils n'en font rien, rien. Absolument rien. Et ils croient avoir fait la volonté du Père. Il y en avait de cela devant le Seigneur Jésus, dans cette génération qui fut celle de ses contemporains. Il y en avait devant le Seigneur Jésus. Et à cette génération, ils disaient, ils disent et ne font pas. Et les pharisiens croyaient aussi, eux, avoir fait la volonté de Dieu. Croyaient. Quand Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable », à des hommes religieux, à des membres du peuple de Dieu, Jésus disait ça « Vous avez pour père le diable ». Ah non, nous avons Dieu pour père. Non, parce que si vous aviez Dieu pour père, vous feriez la volonté de votre père. Mais vous faites la volonté du diable, et c'est le diable qui est votre père. Ces paroles étaient redoutables, chers amis, mais pourtant, c'est la vérité. La vérité, et c'est l'attitude de ce second fils. Il croit avoir fait la volonté du Père. Ce fils n'entre pas dans la vigne. Il n'entre pas dans le peuple de Dieu. Il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et c'est là quelque chose de terrible. Et notre cœur devrait être affligé devant tous ceux qui ont l'attitude de ce second fils. Ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas, Seigneur, Seigneur. Pourquoi n'entreront-ils pas? Parce qu'ils ont dit « je veux bien ». Parce qu'ils ont cru faire la volonté de Dieu, mais ne l'ont pas faite en vérité. Selon l'Évangile, guidé par la parole de Dieu. Eh bien, chers amis, vous voyez que ce qui est préférable, et le Seigneur nous l'a dit, dans cette parabole même, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent tous le premier. Et tous ceux qui répondaient, c'était précisément ceux à qui le Seigneur montrait que l'attitude du second fils était une attitude qui correspondait à la perdition. Dire « je veux bien » et ne pas faire. Dire et ne pas faire. Mes amis, le diable souvent nous pousse à cela. Le péché en nous nous pousse à dire, mais sans faire et ne pas faire. J'en ai entendu des protestations, et pas que moi. On en a entendu souvent des protestations. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je suis chrétien depuis mon tout jeune âge. Oui, je connais Dieu, je connais l'Évangile, je connais Jésus-Christ. Oui, et que fais-tu? Rien de ce que l'Évangile te demande. La chose la plus simple, la volonté première de Dieu, tu ne l'as pas faite. As-tu contemplé Jésus? As-tu contemplé Jésus pour croire vraiment en lui? Et si tu crois en lui, tu reçois toute sa parole. As-tu reçu sa parole? Toute sa parole, rien que sa parole. C'est cela que le Seigneur te demande. Tu peux le faire, ça. Tu peux le faire. Tu as la possibilité de faire. C'est là que l'on peut introduire, n'est-ce pas, cette pensée que Dieu a été à l'origine de la foi que nos cœurs peuvent exercer. La foi, disons-nous souvent, vient de Dieu. Oui, nous avons dans le cœur un sens spirituel qui peut jaillir, qui peut s'exercer. Alors, pourquoi le tiens-tu, le retiens-tu ce sens? Pourquoi fermes-tu ton cœur? Pourquoi te donnes-tu des prétextes? Et pourquoi t'imagines-tu que tu seras sauvé parce que tu portes une étiquette, parce que tu es chrétien, penses-tu? Non, tu seras sauvé si tu as vraiment entendu la voix de ton Dieu, si tu es venu vers lui, si tu as laissé le Saint-Esprit te révéler ton péché, si tu l'as vu ton péché dans toute cette masse, dans tout ce caractère qu'il a. Mais il y a, chers amis, des hommes et des femmes qui se sont vraiment repentis par l'action de l'Esprit en eux et qui en une minute ont vu avec effroi l'énormité de leur péché. C'est Pierre, par exemple, qui s'écroule aux pieds de Jésus et qui dit « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Retire-toi, tu ne peux pas rester à côté d'un homme comme moi. Toi qui es saint, toi qui fais les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu, tu ne peux pas. » Et le Seigneur Jésus ne l'a pas repoussé. « Je ferai de toi un pécheur d'homme. » Ah, mes amis, comprenons ces choses, le temps est court. Nous avons cette semaine pu rappeler combien le temps est court, car les signes, la société humaine elle-même nous crie par son, on peut dire, sa manière d'être, de penser, d'agir, par plutôt ce glissement effroyable qui est le sien vers l'abîme. Alors, cette société nous dit, Dieu ne va pas tarder à dire, c'en est fait. Le dernier moment va venir, le Seigneur Jésus va revenir, et la grâce n'a qu'un temps. La grâce que Dieu fait n'a que le temps de sa patience. Pendant toute sa patience, le Seigneur fera grâce. Il veut des hommes et des femmes qui reçoivent en leur cœur l'Évangile. Il fait grâce, il pardonne les péchés. Il pardonne, il donne la joie. Il donne la paix, il donne l'éternité, mais il faut faire comme le premier fils, parce qu'on peut dire que tous, nous avons dit d'abord, je ne veux pas. Je suis persuadé que tous ceux qui sont chrétiens ici savent bien que pendant une partie de leur vie, ils ont eu cette attitude, même s'ils ne l'ont pas formulée, oh je ne veux pas, ça ne les intéresse pas, c'est pas. Peut-être ont-ils un peu plaisanté, ri quand ils ont vu des gens aller constamment à l'église ou prier, ou oh, ça ne les intéressait pas, ils avaient autre chose en tête, autre chose en vue. Bien beau jour, si, ils y sont allés à la vigne, ils y sont allés, ils se sont repentis, ils sont allés au peuple de Dieu, ils sont dans le peuple de Dieu. Maintenant, ils sont là, dans le royaume qui vient, dans le royaume qu'ils se préparent. Ils sont les prémices du royaume de Dieu. Chers amis, voilà l'Évangile. Il y a un véritable Évangile, c'est celui de la volonté de Dieu accomplie. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croyons à celui qu'il a envoyé sur la terre, son Fils Jésus-Christ. Amen.